13h. Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago qui vient de démarrer avec B.B. King, comme dans toutes ses émissions de novembre. B.B. King, le nouvel album disque de la semaine, coup de cœur, Fnac, Sweet Home Chicago, qui s'appelle One Kind Favor. B.B. King, son dernier album chez Interscope Records. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. C'est le 729e Sweet Home Chicago aujourd'hui, avec comme à l'habitude des invités. En deuxième heure, des invités en live. Il s'agit de Bernard et Pablo, qui sont le duo Michto & Co, qui, une fois n'est pas coutume, dans l'émission, officie dans un style plutôt jazz manouche, et qui se produiront en concert vendredi prochain au Subok à Coville, en première partie des Frères Nardin. Et vous verrez qu'entre le jazz manouche et le blues, il y a parfois un pont qu'il est très très non seulement facile mais agréable de franchir. Donc avec Bernard et Pablo tout à l'heure, et puis en première heure tout à l'heure vers 13h15 13h20, on va avoir en interview par téléphone de Marc-André Légère, qui a remporté pas mal de choses lors du dernier tremplin blues sur scène, vous le savez puisque vous écoutez régulièrement Sweet Home Chicago. Marc-André Légère et Antoine Holler qui ont raflé une bonne partie des prix qui étaient réservé à ces 8 candidats finalistes donc du tremplin blues sur scène à Mantes-la-Jolie. On écoutera 3 extraits de sa démo, Marc-André Légère, dans un style très blues rural, blues acoustique et blues Mississippi, on va dire, avec des influences à la Robert Johnson. On parlera de tout ça avec lui tout à l'heure. Et puis il y aura pas mal de nouveautés, dont pas mal de choses du côté de la France et des États-Unis. Vous allez voir découvrir ça tout au long de ces deux heures. En attendant, on va revenir sur un album que j'avais, dont je vous avais fait écouter un extrait en août dernier. Ça nous vient du nord de l'Europe. Helge Tornquist et son groupe Jovic Eyes, qui joue les morceaux de Harmonica Smith, avec donc ici, je me trompe pas, c'est Blues in the Dark, voilà, un morceau de George Smith. Avec Pepe Holquist et également Sidekick Johnny, et donc son groupe Groovy Eyes, Plays George Harmonica Smith. Un album, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, qui c'est vraiment une petite perle, parce qu'en plus, au niveau de l'objet, c'est génial. Il y a une petite boîte en métal, c'est pas très radiophonique, écoutez quand même. Hein, voyez, non, écoutez plutôt. Voilà, une petite boîte en métal qui contient non seulement l'album bien sûr, mais également un superbe livret avec plein de photos de d'époque. Quand je dis d'époque, c'est que George Smith, lui, il est décédé il y a 25 ans, en 1983, et ce sont des musiciens suédois, donc ils l'ont connu à la fin de sa carrière, qui l'ont accompagné et qui lui rendent hommage à travers cet album. Je trouve l'initiative très sympa, et en plus ça sonne vraiment très très blues. Donc pourquoi ne pas en parler davantage. Helge Tornquist et Groovy Eyes avec Sidekick Johnny, Plays George Harmonica Smith. Alors évidemment, on n'en trouve pas des centaines dans les devantures des magasins, donc rendez-vous sur internet bien sûr si vous voulez vous procurer cet album. Par contre, pour le suivant, ben normalement il n'y a pas de problème, il est bien distribué, c'est Le Souffle du Blues, et puis Distribution Nocturne, donc vous en trouvez partout, Fnac, Virgin Megastore, etc., jusqu'à vos espaces culturels Leclerc, normalement sans problème on peut se procurer cet album qui s'appelle Road Movies. On en a abondamment parlé l'autre jour lors de l'interview de l'intéressé Greg Slapp, qui n'est autre que le nouvel harmoniciste de Johnny Hallyday, et Greg Slapp qui nous gratifie de ce superbe album avec le danois Johan Dalgaard au piano et à l'orgue. Daniel Ivinec à la contrebasse, Thomas Milto, le fils de l'autre, à la batterie, Seb Martel à la guitare et au banjo, et puis Yann Siegel qui vient chanter et jouer de la guitare sur trois titres. Voilà, Greg Zlabzinski, alias Greg Zlab maintenant, Road Movies. Un extrait, peut-être que la dernière fois lors de l'interview, ça n'avait pas été assez long pour certains, parce que c'est vrai qu'on avait coincé l'interview en fin d'émission, c'était pas très judicieux de ma part, je l'avoue. Voici en intégralité Paris, Texas. Avec plus particulièrement pour ce titre, donc Johan Dalgard au piano, Thomas Milto aux percussions, Seb Martel à la guitare et Greg Zlab bien sûr à l'harmonica, à Marine Band en G s'il vous plaît. Paris Texas de Ray Cooder, ici repris à la sauce Greg Zlab dans son tout nouvel album Road Movies, disque de la semaine pour ce 729e Sweet Home Chicago. Ça nous emmène tout droit au Mississippi, hein. Le Texas au Mississippi c'est pas très loin. On va parcourir quelques centaines de miles avec Marc-André Légère qu'on va avoir au téléphone tout à l'heure, un morceau que vous connaissez tous qui s'appelle Last Fair Deal Gone Down.
Gone down, good Lord, I'm just this girl Rhode Island Road. Well, Idabelle, don't you cry this time. Idabelle, don't you cry this time. Cause if you cry about a nickel, mama, show down by the dime. Yes, you can cry, cause that money won't mine. I'm making my way back home.
Ça dépend des fois où il le chante. Marc-André Légère, au téléphone, comment ça va, Marc-André?
Ça va très bien, merci. Et toi, Marc?
Bon, ben, écoute, pas mal. Je sais que tu es loin actuellement, tu n'es plus à Mantes-la-Jolie, tu es du côté de Genève, c'est ça?
Oui, c'est juste.
Est-ce que, alors je sais pas, il y a un petit Larsen qui se promène, j'ai fait de mon possible de mon côté. Est-ce que ça c'était possible de parler un tout petit peu plus fort ou plus près, je sais pas, du poste?
Étirer ma bouche comme ça.
Oui, voilà, peut-être plus. Ça, c'est vrai que bon, on est peut-être à 800 km à vol d'oiseau l'un de l'autre. Marc-André Légère, qui n'est pas suisse, qui n'est pas au Savoyard, mais qui est d'origine, alors qu'est-ce qu'il faut dire, québécoise ou canadienne?
Je suis canadien.
Ouais. Canadien. Voilà. Et donc, te voici résident français ou suisse, alors depuis quelques années, c'est ça?
Non, je suis. Ben, ça fait à peu près. Ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis en Europe, mais j'ai toujours ma nationalité canadienne. Je suis,
d'accord.
Résident, oui, là, puisque j'habite. Mais j'ai pas de résidence, si on veut. Pas encore, en tout cas.
D'accord. Et donc, depuis peu de temps, te voici en Europe et tu as fait l'essentiel, j'allais dire, de ta carrière, de ta jeune carrière, maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que tu peux nous retracer des quelques jalons qui ont fait que tu sais faire tout ça maintenant à la guitare et au chant?
Ouais, j'ai assez tard quand même, si on veut. J'avais peut-être 15-16 ans quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis j'ai commencé avec des trucs tout simples, avec les quelques accords et tout ça, mais j'ai tout de suite tombé amoureux de l'instrument. J'ai commencé à jouer tout de suite des trucs. J'étais gros fan de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, tout ça, donc j'ai commencé très tôt à faire des trucs assez avancés, si on veut.
D'accord. Et donc, ça veut dire que, par exemple, ce qu'on vient d'entendre, la reprise de Roy Johnson, il y a eu un long chemin entre la découverte peut-être de cette musique par Jimi Hendrix, Led Zeppelin et d'autres, et la remontée vers les sources, vers les créateurs, vers ceux qui ont creusé les sillons du blues.
Ouais, ça s'est fait. Je crois que un des premiers vieux blues que j'ai entendu, c'était du Muddy Waters. Hein? C'était une compilation que mon père avait, il y avait tous les bonnes chansons comme... Like a Rolling Stone, puis qu'est-ce qu'il y a des autres? Bien sûr, I Got My Mojo Working.
Ouais, 40 Days, 40 Girls, 40 Days.
C'était quand même électrique.
Oui.
Donc, mais après, j'ai commencé à voir genre Led Zeppelin souvent dans les dans les disques qui avaient sorti, qui étaient un peu plus récents. Ils ont commencé à mettre les... à rajouter, parce qu'au début, Led Zeppelin, ils volaient un peu les chansons, si on veut, tu sais.
Ah ben oui, ils ont même eu un procès avec Willie Dixon, je crois. Hein.
Oui, c'est juste, ouais. Et avec aussi Chester Burnett.
Howlin' Wolf,
ouais. Même chose avec Robert Johnson, comme dans The Lemon Song sur Led Zeppelin 2, tu sais, ils chantent des couplets entiers de Robert Johnson.
Ah, il faut que je réécoute ça, alors, oui, d'accord,
ouais.
Non, non, c'est vrai, le Led Zeppelin 2, il n'est pas sorti de ma discothèque depuis quelques années. Il y a des paroles entières de Robert Johnson dedans, dans Lemon Song.
Oui, quand il dit, squeeze my lemon till the juice run down my leg. c'est dans Traveling Riverside Blues de Robert Johnson.
Oui, ouais, c'est très, très à double entendre, ce truc-là. Ouais, ouais.
Ah oui. C'est d'ailleurs le sens d'humour, un peu des doubles sens que j'adore du blues.
Ah ben oui, c'est une marque de fabrique de certains bluesmen. Robert Johnson en était très friand. C'est peut-être l'un de ceux qui t'influencent le plus dans ton répertoire acoustique, non?
Oui. Entre lui, je dirais lui, Blind Boy Fuller, puis Lead Belly. C'est mes grandes sources dans l'acoustique, là.
Bon, ben écoute, Marc-André Légère, tu sais que l'émission s'appelle Sweet Home Chicago. On va apprendre à personne que c'est un des 30 et quelques titres phares de Robert Johnson qui a été repris par
moi. C'est son hymne, un peu, si on veut, maintenant.
Eh oui, bien sûr. Et donc, tu t'es entouré comme ça de gens qui t'ont appris à jouer de la musique, ou tu es plutôt dans la catégorie des autodidactes, musicalement parlant?
Ouais, non, moi, c'était assez autodidacte, ouais. Avec beaucoup d'albums. Au tout début aussi, j'achetais les albums, les tablatures et les partitions des albums que j'aimais, puis je les apprenais, mais par cœur, quoi. Tu sais,
d'accord.
Les parties guitare. Mais pour ce qui est du blues acoustique, c'est que par oreille. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... J'ai vu qu'il y a peut-être quelques années, ils ont sorti les intégrales de Robert Johnson et...
Mm-hmm. Ah oui, oui.
Mais à l'époque, il n'y avait pas, donc c'était vraiment à l'oreille. Puis accorder la guitare, désaccorder la guitare pour aller...
D'accord. Et donc ça, ce blues que tu faisais avec lequel tu commençais à jouer, ça remonte à quand? C'est les années 90, c'est ça?
Ouais, je crois que c'est autour de... Que j'ai vraiment commencé à me lancer là, dans le vieux blues des années 20, là, je dirais peut-être vers 97.
Ouais,
ça.
Voilà.
Mais je faisais quand même des spectacles, mais j'ai pas commencé, si on veut... en vivre jusqu'à peut-être le 2001. Et là, j'ai vraiment commencé à en jouer beaucoup, puis là, je me suis vraiment, vraiment plongé dans le style. Et
tu as eu l'occasion à cette époque de produire partout au Canada ou uniquement au Québec?
C'était surtout... en 98, j'ai déménagé à Moncton, au Nouveau-Brunswick.
D'accord.
C'est une province maritime du Canada.
Oui.
C'est de là d'où je viens, mes racines, mes parents, tout le reste de ma famille habite là d'ailleurs.
Pour ceux qui trouvent qu'il fait froid au Québec, c'est pire je crois là-bas, non?
Pardon?
Pour ceux qui trouvent qu'il fait froid au Québec, le Nouveau-Brunswick, c'est encore en dessous de zéro, plus que ça, quoi.
C'est à peu près pareil, mais ouais. C'est plus humide, parce que c'est comme Moncton, c'est à 15-20 km de la mer, donc...
D'accord.
C'est un froid très humide, donc il fait moins 25 plus l'humidité.
Bon, génial. Et il y a des endroits pour jouer du blues là-bas aussi, alors?
Au tout début, il n'y avait pas vraiment... J'ai vraiment, en quelque sorte, développé la scène locale, en tout cas, parce que quand je suis allé, il y avait peut-être deux ou trois groupes de blues. Tu sais, c'était dans les années où, en tout cas, en Amérique du Nord, après la mort de Stevie Ray et tous les groupes clones, si on veut, les gens étaient un peu lassés, donc il y avait de moins en moins de festivals de blues.
Ah ben, il est clair qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y en a encore beaucoup, j'imagine pas, j'en entends parler. Des groupes de blues rock au Canada, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, peut-être, non?
Oh oui, quand même, ouais. Oui, c'est clair, ouais.
Et donc, Stevie Ray Vaughan...
Ça a recommencé, il y a eu une renaissance, il y a beaucoup de joueurs, de chanteurs jeunes, que vraiment super talent, mais ça fait peut-être dans les 5 dernières... peut-être 10 dernières années, mais on n'entendait pas trop parler avant...
D'accord.
Il y a eu une période un peu morte dans le blues, en tout cas, que moi j'ai remarqué.
Et donc, il y a quand même des endroits pour se produire. Alors, c'est quoi? C'est des cabanes à sucre? C'est des pubs? C'est des...
Si on a envie de chanter, là-dedans, c'est des canards. non, mais au Canada, il y a surtout le marché de... La musique est très vivante dans les bars et dans les bistrots encore toujours. Donc, pour les groupes qui débutent ou ceux qui se produisent en solo ou duo, C'est souvent dans les bars. On fait quelques salles de spectacle aussi, mais la vie de bar, la musique dans les bars est très très développée.
Et il y a quelques festivals aussi par là-bas, oui. qui s'intéressent plus particulièrement au blues. J'imagine que tu t'es produit sur certains d'entre eux.
Oui, j'ai fait le... celui-là, il y a très longtemps, mais ça s'appelait le Maximum Blues. Je ne sais pas si ça existe encore.
Il me semble que ça existe toujours, oui. C'est à Carleton, c'est ça?
Oui, à Carleton, voilà. Au Québec, ouais.
Ouais.
Et ensuite, j'ai fait Harvest Jazz and Blues, qui est à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
Celui de Drummondville, non, tu ne l'as pas fait?
Pardon?
Le festival de blues de Drummondville, qui se trouve entre Montréal et Québec, non?
J'ai fait quelques festivals quand j'ai eu genre 96, 97, mais ça fait tellement longtemps, il y en a que je m'en rappelle plus. mais dernièrement, j'ai fait... en 2006, c'était au nord de Montréal, là, pas Saint-Sauveur, mais Mont-Tremblant.
Mont-Tremblant, oui, ça c'est, ouais. C'est quelque chose qui... C'est le genre de festival qui a même une renommée par chez nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, dont on parle de temps à autre.
Ouais.
C'est Brian Slatt qui s'occupe de ça, non?
Moi, à l'époque, c'était... Je ne me rappelle plus à qui j'ai parlé, c'était une femme. Lui, je ne l'ai pas rencontré.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait, parce que c'est une question qui me brûle les lèvres depuis 2-3 minutes, qu'est-ce qui a fait que tu aies quitté tout ce paradis là de Nouveau-Brunswick et du Canada pour venir t'installer dans nos vertes contrées de Haute-Savoie et de Suisse? Quels ont été les hasards de la vie qui a fait que tu t'es installé par chez nous?
Ça a tout commencé, ça faisait peut-être environ 4 ou 5 ans qu'il y avait toujours un... à Moncton, il y a un truc qui s'appelle les franco... comment ça s'appelle?
Francophonie, non?
C'est francophone, je crois. C'est un festival de musique francophone et tout ça, et il y avait un programmateur franco-suisse qui venait
D'accord.
toujours me rencontrer, puis il disait un jour, faudrait que tu viennes, et c'était un monsieur qui bossait, et qui bosse toujours au Chat Noir. Il fait la programmation, c'est un bar spectacle à Carouge, qui est une petite commune de tout près, dans le canton de Genève.
Oui.
Et du coup, il y a une année comme ça, on essayait de m'exporter, mais puisque je chantais en anglais, toute ma musique est en anglais, ben on pouvait pas, je ne pouvais pas m'exporter à travers les moyens qui étaient en place à l'époque. Donc, il y a une année comme ça, qui était, c'est en 2006, il m'a dit, écoute, on fait les démarches et tu viens jouer, je fais la programmation dans un festival à Genève. On s'est serré la main comme ça, et
ouais.
C'est là que ça a démarré. Donc en 2007, en juillet 2007, j'étais joué à la scène Ella Fitzgerald à Genève, au Parc Lagrange, qui est une scène extérieure dans un parc dans la verdure, mais super beau.
D'accord.
Et donc là, j'ai fait, durant cette période, j'ai fait une toute petite tournée de 2 semaines en France.
Ouais.
Et quelques dates en Suisse, puis j'ai tombé amoureux avec l'accueil et... aussi beaucoup de la proximité des lieux.
Tu étais venu te produire, est-ce que tu étais venu te produire à Annemasse? Il me semble que j'avais retenu ça, moi, non?
Oui, j'ai joué à Annemasse, je ne me rappelle plus si c'était durant cette période ou si c'était juste quand je suis revenu.
Mm-hmm.
Parce que j'ai joué dans un bar qui s'appelait le Tropicana. Hein.
D'accord, mais je te pose cette question-là, elle est très très pointue, parce que tout simplement, j'ai un ami qui s'appelle Samuel, qui habite à Annemasse, qui était normand auparavant, avec qui on faisait l'émission ensemble pendant plusieurs années, et que je salue ici, Sam, je sais qu'il t'a vu sur scène là-bas, donc voilà, c'était... Il m'en avait parlé avant même le tremplin, il m'avait dit, attention, Marc-André Légère, il faut aller le voir, c'est très très bien.
Voilà.
Parenthèse fermée. Voilà, et donc alors, tu vas te produire là-bas, tu fais une tournée de 2 semaines, et qu'est-ce qui fait que tu prends des clés d'appartement? Peut-être pas définitivement, mais au moins pour une longue durée.
Oui, j'étais... ça faisait déjà un moment que j'avais des trucs dans ma vie personnelle que j'avais besoin de changer. Il t'attend... et professionnel aussi. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand débouché pour moi. J'étais en train de... Je venais de sortir mon album et tout ça. Et j'avais besoin de... Je sentais que le Canada, pour moi, j'allais passer peut-être encore que plusieurs années à...
Il fallait tourner une page, c'est ça?
Ouais, c'est ça, il fallait tourner une page. Puis du coup, j'ai vendu ma maison, j'ai pris une guitare, puis mon sac à dos, et je suis parti.
Ah ouais, d'accord.
Et du coup, au début, j'avais pas l'intention de recommencer à tourner, ou c'était vraiment un voyage à titre de découverte personnelle, si on veut. Puis, Mais sauf qu'après un mois sans jouer, j'ai commencé à péter les plombs un peu.
Oui, ça, on peut comprendre quand on...
Ouais. J'étais habitué de jouer de 5 à 6 soirs par semaine dans les 3 années précédentes. Donc j'avais besoin de prendre une pause, mais après un mois, j'en avais assez.
Ça faisait une trop grosse pause, oui, parce que là, pour jouer à ce rythme-là, il faut accepter pas mal de plombs fauchés, quoi, en fait, hein, par ici.
Ah oui. Ah. Mais je jouais dans plusieurs groupes. Je faisais, pour survivre comme musicien, habituellement, on peut pas faire qu'un truc. Hein, donc moi, je joue de la basse dans un autre groupe. Mais c'est tous des projets qui m'intéressent. Mais en même temps.
C'est comme la vie de bluesman, je veux dire, tu prends un garçon comme John Lee Hooker dans ses jeunes années, dans les années 40, il a dû multiplier, je crois, plusieurs dizaines de surnoms différents pour arriver à se produire et à biaiser. Il avait plusieurs agents, enfin c'était de la folie, il arrivait à jouer tous les soirs, mais sous plusieurs noms différents, quoi. Et ensuite est arrivée l'aventure du tremplin blues sur scène. On va parler de blues sur scène tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute un deuxième extrait de cet album qui nous intéresse là pour trois titres. On écoutera tout à l'heure Ceylon. On va écouter Rumbling Highway Side. Et puis on se retrouve juste après pour une seconde partie d'interview au Marc-André Desjardins. D'accord ?
Ok.
À tout à l'heure.
Let's go.
Allez, on y va.
Ok.
Try to get home in half a day. I ramble down Howard Side. Try to get home in half a day.
Marc-André Légère également en direct dans Sweet Home Chicago. Toujours ici, Marc-André.
Oh yeah.
on vient de t'entendre chanter, jouer de la guitare. Tu fais ça, bien sûr, sans recording. Hein. Tu joues et tu chantes en même temps. Et c'est one take, c'est ça?
Oui, sur les pièces acoustiques, habituellement, c'est le choix que je fais, la technique choisie. Ouais.
Très bien. Alors, on va parler un peu du tremplin blues sur scène auquel tu as participé cette année. C'était ta toute première inscription à ce genre de choses, un tremplin, finalement, non?
Oui, c'était la première fois que je faisais un tremplin. De tout genre, quoi.
Ouais, que ce soit blues ou autre. Et qu'est-ce qui t'a décidé, je vais y arriver, à t'inscrire? Est-ce que tu en avais entendu parler précédemment? Peut-être une manageuse ou un manager qui s'occupe de toi, qui s'occupe de tes affaires ici? Comment ça s'est passé, l'inscription?
Ouais, moi, c'était entre ma manager et mes tourneurs, et ils en avaient discuté un peu avant. Moi, j'avais pas entendu parler parce que, franchement, il y a même... La plupart des festivals où je vais, c'est toujours une belle surprise pour moi, parce que je connais pas très bien le réseau encore en France. Et donc, c'est un manager qui a envoyé la demande, et voilà, j'ai été accepté.
Et tu as accepté, et tu as été en plus sélectionné, parce qu'il faut rappeler aux auditeurs qu'il y avait quand même 63 artistes qui voulaient se produire pour 8 places, simplement, hein, qui étaient disponibles. Tu as fait partie des 8 qui ont eu la chance de se produire. Est-ce que pour toi, ça a été une chance, par exemple, de te produire en tout dernier?
Oui, parce que c'était tiré au sort. Donc, ouais. Puis nous, on arrivait de... j'étais en tournée, justement, de l'instant, puis on est parti en voiture de Fresse le matin à 6h. Donc, on avait téléphoné pour savoir à quelle heure qu'il faisait le tirage, parce que... ou pas le tirage, mais qu'il tirait au sort.
Oui.
Puisqu'on aurait pu être disqualifié si on était un peu en retard. Donc, quand on a su que j'étais dernier... J'étais soulagé, puis en même temps, je peux dire que je devais jouer tard, je devais tenir le coup.
Alors peut-être que ça t'a pas donné l'occasion d'applaudir les autres candidats, les 7 autres qui se sont produits avant toi. Si, tu en as vu quelques-uns quand même.
Ah oui, j'en ai vu au moins 4 ou 5. Je ne me rappelle plus tous les noms, là, mais ouais.
Alors écoute, je vais les redonner juste pour mémoire également aux auditeurs. Il y avait Blackberry and Mr. Boohoo, il y avait Jérôme Pietri, Magic Buck, Acoustic Soul Factory, Philippe Devin Blues Band, Mojo Hand et Antoine Holler. J'imagine que tu n'en connaissais aucun précédemment, tous ces artistes.
Non, il y en a un que je connaissais, il y avait un truc, c'était en groupe électrique, il y avait un chanteur, Mathieu.
Mathieu, parce que...
Lui, je l'avais rencontré cet été.
Oui, parce qu'il fait également un duo acoustique avec un Australien qui s'appelle Barefootiano, qui s'appelle Mountain Man.
C'est, ça,
c'est
oui.
pour ça que tu les connaissais. Et en fait, il s'était produit également sous le nom de Montelman il y a quelques temps au même tremplin. Et Mojo Han, donc c'est sa nouvelle formation électrique. C'est vrai qu'ils sont de la région Rhône-Alpes de toute façon, donc forcément. Voilà. Et alors, le peu que tu as entendu les autres musiciens, qu'est-ce que tu as pensé de leurs prestations globalement?
J'ai trouvé que plusieurs, c'est très bien. Il y en avait de différents niveaux. Oui. Ouais, ce que j'ai trouvé bien en même temps que. C'était un peu mixte, il y en avait que... Et j'ai vu un guitariste très jeune, d'ailleurs, que c'était... Je me rappelle plus c'était quoi encore son nom.
C'est Philippe Devin ou Antoine Holler, l'un des deux peut-être, non?
C'était un électrique. Ouais. Jeune guitariste...
Ils avaient un chapeau tous les deux, donc ça va pas être ça qui... Il y a Antoine Holler qui était mon invité dans Sweet Home Chicago la semaine dernière, qui a raflé le prix électrique, notamment, qui est également partant pour Montréal en août prochain. Peut-être c'est lui dont tu parles ou c'est l'autre, Philippe Devin?
Je sais pas.
On va dire que c'est celui qui a joué juste avant toi, alors c'est ça, c'est celui-là, non?
Il y avait celui-là aussi qui était plutôt groove, qui était juste avant moi, j'ai adoré ça.
Un peu plus soul, oui, exact. Ouais. Mais voilà, donc forcément c'est la rencontre, parce qu'il y a des musiciens de tous les bords, de tous les horizons, tu l'as dit, de tous les niveaux. C'est aussi ça le tremplin, le fait que chacun puisse se sortir un petit peu de l'ombre. Rien que le fait d'avoir participé au tremplin, est-ce que toi tu as l'impression, par rapport au public blues français, d'avoir franchi une étape ou pas forcément?
Je crois que si, ouais. Pour c'est toujours un peu un sujet que je suis pas sur la ligne, mais tu sais, moi je avec les années, tu sais, ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais ça, donc tu sais, moi je j'ai jamais fait de tremplin, donc pour moi, tu sais, comment je vois le succès et tout ça, c'est pas forcément avec une prestation de 20 minutes. Ça se résume, j'ai beaucoup d'années de boulot, et pour survivre, en tout cas, moi personnellement, je mesure mon succès pas avec l'argent, ni avec les prix ou tout ça. Mais pour répondre à la question plus précisément, je crois que oui, parce que de tout ce que j'ai entendu parler, le tremplin blues sur scène est quand même, surtout dans le milieu blues en France, est assez, de bonne renommée et tout ça, donc je crois que ça va forcément... aider pour trouver des plus grandes scènes.
Mais je crois en plus, on va rappeler hein, les trois prix que tu as obtenus ce jour-là. C'était le dimanche 9 novembre dernier. Le prix électroacoustique Blues sur scène, donc qui va te permettre de jouer à Mantes-la-Jolie en novembre 2009. Le prix Cahors Blues Festival, donc qui va te permettre de jouer dans le plus vieux festival de blues français qui s'appelle le Cahors Blues Passion. Blues Festival, en juillet prochain.
Je crois que c'est le plus vieux en France.
Ah oui, ouais. Il est né en 1982. Tous les autres sont disparus depuis. C'est le plus vieux festival, exact. Oui. Et puis également le prix du collectif des radios blues, donc qui va te permettre, je l'espère, de passer dans un maximum de radios, que ce soit en France, en Belgique, enfin voilà, tout le réseau du collectif des radios blues. On commence avec cette interview aujourd'hui, mais tu seras très certainement sollicité par d'autres collègues du collectif. Voilà, tout ça c'est bonus, je crois, pour une carrière qui continue. Tu l'as dit, tu as déjà 15 ans d'ancienneté, tu n'es pas tout à fait tout petit jeune, tu n'es pas un perdreau de l'année, comme on dit par chez nous. mais c'est toujours un coup de pouce appréciable. Tu as des projets en ce moment, Marc-André, enregistrement, dates de concert, des choses comme ça?
Oui, là les dates de concert, j'ai plusieurs choses qui se développent.
Oui.
Oh, on a un petit problème de... Okay. Oui, j'ai plusieurs trucs qui se développent pour l'année 2009 et même je crois que j'ai des dates jusqu'à 2010.
D'accord, bah dis donc.
Pour ce qui est de l'enregistrement, j'ai fait une première session et que je vais compléter quand je reviens. Là, je pars pour le Canada pour 6 semaines.
Oui.
Et je reviens à la fin janvier, et là, je rentre en studio. Et donc, on espère avoir un album distribué à la fin du printemps, début été.
Tu vas enregistrer ça sur Genève, c'est ça, non?
Oui, il va en avoir à Genève, il va en avoir en France. De nos jours, c'est assez portable, les studios.
Oui.
Donc, et je vais avoir des invités spéciaux et tout. Donc,
Est-ce qu'on peut avoir des noms déjà, si tu as pressenti des invités, non?
Ben, je peux vous en dire un.
Ouais.
j'ai fait une super rencontre avec un harmoniciste de Genève qui s'appelle Guillaume Lagarde.
Ouais.
Qui joue aussi dans un autre groupe qui s'appelle L'Ironie du Son.
D'accord.
Qui a vraiment... Des fois, je pars souvent dans ma musique, je pars souvent dans des tangentes hors de blues et tout ça. Et avec lui, on a vraiment cliqué sur le côté alternatif, si on veut, ouverture d'esprit et tout ça. Donc, c'est un harmoniciste très, très avancé qui fait beaucoup des overblow, mais toujours avec une musicalité. Exquise.
Très bien, très bien. D'autres noms pressentis, mais pas encore confirmés, donc on en parlera plus tard, peut-être. Alors.
C'est ça, ouais.
Écoute, très bien. Et puis, les quelques prochaines dates de concert, que ce soit par chez toi ou ailleurs, tu peux en donner quelques-unes, si tu veux, sur l'antenne. Je sais qu'on est écouté un petit peu partout.
Parce que j'ai une qui est confirmée pour tout de suite à ma rentrée.
Oui.
C'est le 22 janvier à Château-Carton, à Genève.
D'accord. Le 22 janvier, rendez-vous est pris. Et puis, il y aura bien d'autres occasions de te voir. On l'a dit déjà en juillet pour le gros rendez-vous annuel de Cahors. Et puis ensuite, bien sûr, en novembre pour le 11e festival Blues sur scène. Pour l'enregistrement, ben, n'oublie pas d'en envoyer un ou deux au collectif des Radio Blues. On s'en fera l'écho, bien entendu.
Oh oui, vous aurez les premières copies.
Ok, ben, super.
Après les parents.
Après les parents, oui, ça c'est sacré. Marc-André Légère, je te souhaite tout le bonheur. Et puis, bravo pour ton talent, en tout cas, je le dis tout à fait sincèrement, c'est pas habituel d'entendre quelqu'un de jeune, parce que malgré tes 15 ans d'ancienneté, tu restes un jeune musicien, pouvoir interpréter ce genre de musique avec autant de fraîcheur et autant de talent, moi je te le dis.
Merci.
Voilà, à très bientôt.
Oui.
Merci beaucoup.
Bonjour.
Au revoir. Thank you.
so I'm gonna pick it up a little. Kitchen. I peeked outside my window. I could see my baby. I could tell she'd been drinking that hard liquor all night long. All night long, she'd been drinking all night long, all night long. And right about then, I had to decide whether I was gonna let her in or not. So I went to the door and I kicked her wide open. I looked my baby straight in the eye, and here's what I tell her. I don't want to see you coming around here. No, my baby screaming and crying. I don't want to see you coming around here. No, my baby screaming and crying. You know I got a short temper, mama. Tonight I don't mind dying. You can cry, 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 baby, cry me a river. And then I want you to sail along, sail along, little baby, sail along. I want you to sail along, sail along, baby, sail along. I want you to sail along. Sail on, baby, sail on. I don't care where you're going, baby. You can go far, far away from here. Maybe you hear something like this. got nothing, ain't got nothing more to say. Got nothing, ain't got nothing more to say. André Léger, je vous souhaite une superbe soirée, bonne continuation de festival.
Voilà, Marc-André Léger, écoutez, c'est l'adopter. Hein. C'était un morceau de 12 minutes, s'appelle Sail On, avec effectivement quelques consonances hispaniques en fin de plage. Marc-André Léger, on a écouté avec Lars Fairdeal, Gone Down, Rumbling Highwayside et Ceylon. Merci pour l'interview. Bon vent, bien sûr, à Marc-André Léger. On va poursuivre dans ce 729e Sweet Home Chicago avec le disque de la semaine. Non, sans vous rappeler qu'en deuxième heure, vous aurez Pablo et Bernard, donc le Mishto & Co, en direct live dans le studio. Voilà, on interview avec un petit peu de musique live. Tout ça pour vous inciter peut-être à venir vendredi prochain au Subok à Coville, dire Mishto & Co en première partie des frères Nardone. Voilà, un petit peu de jazz manouche dans ce monde de blues, une fois n'est pas coutume. On poursuit avec Greg Zlapzinski, donc de cet album Road Movie, avec une surprenante version de Ascenseur pour l'échafaud, un morceau bien sûr créé à la fin des années 50 pour le film de Louis Malle par un certain Miles Davis. C'est notre disque de la semaine pour